Vous écoutez
RMC. Bonsoir, cher Yves Guémour.
Bonsoir à tous.
Ancien acteur, journaliste à ce foot, évidemment, qu'on ne présente plus. Chéri, vous proposez avec ce foot un numéro magnifique. Numéro spécial, juillet-août, sur le Mondial 70 au Mexique, considéré comme la plus grande Coupe du Monde de l'histoire.
Ouais.
Dis-nous pourquoi, déjà en 30 secondes, synthétique. Pourquoi?
Pourquoi le plus grand moment?
Et après, on en détaille, hein, les anecdotes.
Dans la légende, il y a tout ce qui est le siècle. Il y a l'arrêt du siècle de Gordon Banks. Il y a le match du siècle Italie-RFA en demi-finale. Il y a l'équipe du siècle, la Seleção 70. Le joueur du siècle, Pelé. Bon, on va pas rentrer dans les détails ce soir. Hein. Pelé, Maradona. Bon.
Non, c'est pas le
sujet. À l'époque, quand il arrive, c'est le plus grand. Et il y a l'éclat du soleil, parce que les matchs n'étaient pas en nocturne, mais l'après-midi, donc
c'était... Une chaleur de plomb.
Ah, une chaleur de plomb, ça par contre, pour les joueurs, c'était pas cool. Et puis, tout simplement, la retransmission en couleur, c'était
la première fois.
Alors par contre, les matchs étaient très tard, hein. Fallait veiller pendant la nuit. Et puis, un truc tactique, tout simplement, c'est que les équipes jouaient à 4 attaquants, 3 attaquants minimum. Donc vous pouvez vérifier, c'était des trucs de dingue. Moi j'ai cru que... Parce qu'en fait le football s'est bunkérisé dans les années 60. On n'avait plus les scores des années 50, les 7-5, les 4-3, les genres de trucs et tout. Et pourtant il y a un dernier petit retour de flamme. Soyons fous, c'est le Mexique, on est dans le délire, on est à 2600 mètres d'altitude.
Il y a 100 personnes dans le stade.
Ouais, voilà, soyons fous. Et puis il y avait aussi on était sur la continuité des JO de 68 avec des événements extraordinaires, hein, donc le 200 mètres, Bob Beamon et tous ces trucs-là, quoi. Et puis c'est la fin d'une décennie politiquement qui est très marquée.
Je pense que c'est plus dû au contexte socio-culturel, politique.
Tout ça,
c'est la fin de la guerre du Vietnam.
Tout ça.
C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde du Nouveau Monde.
Absolument. Alors, je vais aller dans
ton
sens.
C'est le monde moderne qui s'ouvre à ce moment-là. Et l'arrivée de la couleur, même si on a quelques images de 66 en couleur.
Bien sûr.
Notamment l'image de la finale.
Ouais, bien sûr.
C'est pas encore complètement partout dans les maisons.
Ouais.
Et 70, c'est vraiment la Coupe du Monde où on voit des premières images de football en couleur.
Ouais.
Et après, il y a tout le côté légendaire. On dit souvent qu'entre la réalité et la légende, c'est la légende qu'on imprime. Cette Coupe du Monde de 70, elle est vraiment légendaire pour ça, parce que Pelé, la troisième Coupe du Monde qui disparaît, puisqu'on la change à partir de là.
Bien sûr.
La petite troupe Jules Rimet, là.
Ouais, tout à fait.
Il y a les fameuses actions dont on a plein. En fait, c'est comme un acte de naissance du football moderne, la Coupe du Monde de 70. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus grande. C'est pas forcément la plus grande, mais c'est la plus légendaire, on pourrait dire.
Comme tu disais, on regardait ça, il y a une citation de François Hollande qui est très intéressante dans le SoFoot, où il dit justement, c'est la fin de la guerre d'Irak.
Du Vietnam.
C'est la fin de la guerre au Vietnam.
Elle n'est pas complètement terminée.
Pas du tout, non.
En 75, la guerre du Vietnam.
On est sur la fin et il y a pas mal de... Il y a une libération.
Enfin, moyen quand même.
Il y a une libération quand même des idées, de ce que tu disais. Il y a pas mal de dictatures qui se terminent.
Oui.
Et surtout, c'est l'avènement de Pelé. Et pour les jeunes générations, alors il y en a qui diront que c'est Maradona.
C'est plutôt la consécration
sacre de Pelé.
Il a déjà deux victoires en Coupe du Monde.
C'est sa troisième.
C'est pour mettre un peu en corrélation avec ce qui s'est passé sur Netflix avec Michael Jordan. Pelé, ça a été la première énorme star du football. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut pas le comparer. On dit dans le reportage sur Michael Jordan, ils disent il a fait passer le basket dans une autre dimension. Et ben Pelé a fait passer le football avec cette Coupe du Monde, ce troisième titre, le trophée Jules Rimet qui reste au Brésil pour sa troisième victoire. Et donc il fait passer le football dans une sphère et il a une pipolisation du footballeur qu'on n'avait pas forcément connu avant lui.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Pelé. C'est 70, c'est aussi la grande galerie des joueurs charismatiques, classieux, mais qui sont vraiment des super footballeurs.
Ouais.
Donc, il y a Bobby Moore, il y a Charlton, il y a Gigi Riva, Beckenbauer.
Il y a Gerd Müller aussi.
Gerd Müller, mais il y a une galaxie. Moi, j'avais oublié. Il faut peut-être en 86, avec Socrates, Zico, Platini, tous ces joueurs-là, Maradona évidemment, 86.
Voilà, la Coupe du Monde 82 et 86 restent tout aussi légendaires pour ces raisons-là.
Absolument.
Pour les légendes et les joueurs
la galerie
de personnages. Mais l'acte fondateur, effectivement, du football moderne, c'est 70, le récit, la Coupe du Monde totalement à la télé, commentée, donc ce qui fait que quand les histoires se racontent, elles restent.
Par Michel
Drucker,
la
nuit.
Les commentateurs l'ont raconté, les mecs.
Il y a eu le même truc avec la culture Canal dans les années 90, les combats de boxe la nuit et la NBA. C'est ça. Ouais. Donc on regarde ça jusqu'à 4h du matin, on va se coucher, mais on a des images plein la tête. Et le lendemain, on en reparle encore. Et 70, c'est la première fois que ça arrive, parce que c'est les matchs qui ont lieu la nuit.
Et c'est aussi une époque, messieurs, dans tous les buts de ce mondial 2070, c'est l'époque où on célébrait les buts en sautant, en levant les bras. Tout le monde célébrait les buts de la même façon, tu sais. Tout le monde faisait comme ça, tu vois.
Et ben non.
Oui,
non, si, si.
On 90% des buts que j'ai vus, les mecs font la même. C'est même pas une célébration. Ils sont juste contents.
Non, parce que j'ai remarqué autre chose. C'est les premières fois qu'on saute en l'air et on fouette l'air avec le poing.
Ah oui,
On lève le poing. C'est surtout les Brésiliens, Pelé, Jairzinho et tout. Et c'est pas sans rapport avec le poing des athlètes noirs de 68. Et de Angela Davis et tout ça. J'ai une galerie de photos. On les voit, mais Pelé, mais ils sont tous.
Ça, ils l'ont reconnu ou pas, ils l'ont affirmé.
Non, mais eux, on est imprégné de tout ça. Je veux dire, l'équipe du Brésil, la plupart, bon, c'était des Noirs. Je pense pas qu'ils étaient, totalement étrangers à ce qui se passait aux États-Unis. Hein, par contre, alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que je me suis dit, mais 70, les Brésiliens, c'est marrant, ils ont pas de coupe afro. Et en fait, non, parce que comme l'encadrement était militaire, tout l'encadrement du staff et tout, cheveux courts.
Régime militaire.
Régime militaire. Brésil, ouais, donc, pas important. De coupe afro, cheveux coupés très courts.
Alors, on va évoquer plein d'anecdotes avec toi, bien sûr. Rappelons quand même que le Brésil, quand il arrive au Mexique, il est extrêmement critiqué. Pelé a 29 ans.
Ouais.
Cette équipe n'a pas de schéma de jeu. Non. Tout le monde dit que ça va être le bordel.
Ouais.
Et pourtant, c'est incroyable. Peut-être le plus grand Brésil qu'on a vu.
C'est incroyable. Bah, ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive souvent dans les Coupes du Monde, c'est que les équipes, elles se révèlent soit dans la compétition ou soit un peu avant la compétition. Moi, je pense que l'équipe de France 98 gagne la Coupe du Monde à Clairefontaine pendant un mois où ils bossent comme des tarés. Ils sont coupés du monde. Ils sont aux soins.
Ouais, ils ont fait pareil en 2018.
Hein, tu vois ce que je veux dire?
En 2018, quelques semaines avant, ils sont à la rue. Et voilà. Puis c'est pendant la compète. Mais en fait,
un peu avant, en 98,
tu sais, dans l'histoire des Coupes du Monde, Chérif, à chaque fois, moi je l'ai dit au moment de la dernière Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'on a pu se faire chier à dire la préparation, le ceci, le cela, alors qu'en fait la plupart des équipes se révèlent pendant la compétition. C'est l'Italie de 82, c'est pendant la compétition, ils sont à la rue avant.
Absolument.
Il y a plein d'exemples comme ça finalement.
Et le Brésil, ils partent. C'est l'équipe qui est arrivée le plus tôt au Mexique, donc ils ont bossé. Ils avaient déjà beaucoup bossé hein, quand ils étaient au Brésil avec les méthodes militaires, avec les tests Cooper, parce qu'il y avait certains préparateurs physiques qui étaient allés aux États-Unis, à la NASA et tout ça. Et quand ils sont arrivés au Mexique, ils sont très très vite montés en altitude. Et là, pendant 3 semaines, mais ils racontent, c'était affreux. C'est concentration. Il voyait c'est Jairzinho qui racontait que son occupation c'était de voir un glacier fondre. Tellement il se faisait chier les mecs. Et le soir, évidemment, regardez s'il n'y a pas des scorpions dans les godasses et tout. C'est un truc de ouf. Mais par contre, ils ont bossé au niveau de l'altitude, la condition physique, évidemment.
En parlant de ce Brésil, pareil, en lisant SoFoot, y a un passage où Christian Gourcuff, qui est quand même pas le plus extraverti des entraîneurs, quand il a un discours, même si on l'aime, en tout cas moi je l'aime, quand il parle de football, il dit le Brésil 70 c'est le fantasme de ma jeunesse, il dit c'est le football tel qu'on le rêve. Et il dit également un truc qui m'a marqué: j'étais supporter de cette équipe comme je n'ai jamais été depuis. Tu vois, il y a quand même une équipe de France qui a gagné 2 Coupes du Monde. Et là, il te dit que le Brésil 70.
Il y a un choc émotionnel.
C'est le Joga Bonito, on peut décrire. Ouais, enfin, voilà.
Bon, c'est l'ancêtre du Joga Bonito. Ouais, parce que il y a un choc émotionnel. Et ce qu'il faut, ce que j'ai voulu raconter dans mon article, en jaune et noir, c'est le côté, quand on voit le Brésil en 70, on sent qu'il y a un petit côté surnaturel. Il y a de la magie. On sait très bien qu'il y a la culture de l'esclavage qui fait que ces gens-là, ils ont une télépathie. Mais c'est normal parce que c'est toujours le feeling de résistance par rapport à l'oppresseur. Donc, les mecs, ils cultivent quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment que ça se fait que Pelé, quand t'as en finale Rivelino qui centre à l'aveugle, Pelé, il est là au deuxième poteau, il saute plus haut que tout le monde. C'est du Michael Jordan. Oui. Mais pourquoi il était là à ce moment précis? Parce que les mecs, ils ont une télépathie entre eux. Comment Tostao, contre l'Angleterre, il part sur le côté gauche, il y a un petit pont à Bobby Moore quand même. Sans se retourner, il centre et Pelé est là. Et Pelé, sans regarder, il passe à Jairzinho qui marque. Et en finale, pareil. Pelé qui regarde pas, t'as Carlos Alberto qui déboule sur le côté droit. Mais comment ils font?
Parce que
comment ils ont
Pelé
fait?
Pelé en finale, c'est un but et deux passes décisives quand même.
Ouais, ouais, c'est 4 buts et 6 passes décisives pendant tout le tournoi.
À l'époque, on les comptait pas trop comme ça, les stats.
Mais cette Coupe du Monde, elle est aussi, comment ils se trouvent?
Cette Coupe du Monde, elle est aussi fondatrice, bon, pour le Brésil, évidemment. Mais c'est par exemple un événement très important en Allemagne. En Italie, c'est une Coupe du Monde qui est.
C'est la Coupe du Monde du rachat. C'est la Coupe du Monde. 66.
Exactement. C'est la Coupe du Monde, en plus, qui relance complètement le foot italien qui en club avait gagné, parce que dans la décennie il y avait eu l'Inter qui avait gagné la C1, le Milan aussi.
En plus il se rouvre encore à l'étranger.
Mais cette Coupe du Monde, elle est acte de naissance d'un renouveau du football italien qui va trouver son style et qui va traîner ce style pendant des années. On dira qu'ils jouaient comme ils ont joué durant cette Coupe du Monde.
J'ai été extrêmement surpris.
Il y a eu une tonne de livres qui ont été écrits sur le match du siècle Italie-Allemagne, la demi-finale.
On va raconter ça.
En Italie, c'est un événement culturel et politique, ce match-là.
Ouais.
Il est décrypté, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des livres écrits sur ce match-là.
Ouais.
Donc, cette Coupe du Monde 70, dans plein de pays du monde, elle compte beaucoup.
Mais Daniel, si tu peux rappeler le scénario de ce match quand même, enfin, RFA Italie, demi-finale de Coupe du Monde.
Partout, fin du temps réglementaire, et 4-3 pour l'Italie dans la prolongation qui devient complètement folle, alors que le match en lui-même avait été plutôt moyen. En plus,
les Allemands ont pilonné le but italien parce que, ils ont égalisé à le 89e, 90e.
Ils passent devant aussi.
Ah oui, après c'est le chassé croisé.
C'est dans la prolongation.
Mais je crois que les Italiens se révèlent.
2-2, 3-2, 3-3, 4-3.
J'ai bien observé les Italiens. J'ai l'impression que les Italiens se révèlent avec leur potentiel offensif qu'ils avaient un peu négligé.
Mm-hmm.
Alors, ça, par contre, tu le vois en 82, parce que j'ai redécouvert l'équipe d'Italie de 82, tu vois. Et en 70, c'est dans cette prolongation, les mecs disent, mais putain, à chaque fois qu'on attaque, on marque. Donc on a quelque chose, on a du talent.
Ouais, toujours l'idée, parce qu'en plus, la culture italienne, à ce moment-là, elle est imprégnée d'Herrera.
Absolument.
D'un football défensif, de contre des succès de l'Inter.
Mais revoyez les buts contre l'Allemagne, les mecs, ils attaquent, ils marquent. Et c'est des gestes précis, des combinaisons précises. Même les Allemands ne comprennent pas.
Dans cette Coupe du Monde, j'ai lu aussi que c'était vraiment la Coupe du Monde des premières, comme tu l'as dit. C'était la première fois qu'il y avait le carton jaune et le carton rouge.
Les remplacements aussi.
La première fois qu'il y avait les remplacements.
Ça a joué un grand rôle, les remplacements. Ça jouait un grand rôle parce que beaucoup d'entraîneurs de l'ancienne génération qui n'avaient pas connu ça. Parce qu'avant, les remplacements étaient interdits. Ils avaient été autorisés quand il y avait des blessés. Et là, par contre, pas besoin de blessés pour faire des changements. Du coup, c'est la naissance du coaching.
Oui.
Et alors, t'as l'entraîneur anglais, justement, qui était pas très habitué à ça. Il a fait une ou deux conneries contre l'Allemagne. Il a sorti Charlton un peu trop tôt, qui est encore frais. Mais parce qu'en fait, c'était nouveau et il s'était mis dans la tête, au bout d'une heure de jeu, avec la chaleur et la fatigue, je fais rentrer deux joueurs. Et il s'est planté. Malheureusement, contre l'Allemagne, il s'est planté.
Et voilà, et l'Allemagne a battu la RFA a battu l'Angleterre en quart de finale de ce mondial. Alors c'est aussi le mondial de grandes déclarations qui ont fait l'histoire du jeu, notamment celle de Pelé sur le grand pont du siècle entre guillemets, tu vois. Ce but qu'il a pas marqué que tout le monde pensait au fond.
Et
pas Jordan Banks, je parle effectivement de la déclaration. J'ai marqué un but. Non, c'est pas celle-là. Alors, pour moi.
J'ai marqué un but, mais
c'est contre l'Angleterre en face de poule.
Voilà.
Alors c'est quoi, tu veux quoi, le grand pont
sur l'Uruguay?
Sur l'Uruguay, le grand pont. Bah déjà, Pelé n'aime pas parler de ça parce qu'en fait, il dit ça me saoule parce que maintenant partout où je vais, très souvent au lieu de me parler de mes 3 victoires en Coupe du Monde, enfin les trucs magnifiques qu'il a fait, on parle toujours de ce grand pont.
Mais tu sais ce qui est formidable là-dessus, je permets de m'arrêter, mais à une époque où moi je me bats tout le temps pour dire que le foot c'est pas uniquement marquer, gagner qui est important et tous les trucs qu'on entend là, les statistiques pour gagner, Pelé, il y a des images qui restent de lui pour l'histoire. Et qui n'ont pas donné de but.
C'est ça.
Juste parce qu'il a inventé un geste beau, ce grand pont qu'il a sorti du
siècle.
Je sais pas où, c'est même pas un grand pont, c'est une feinte.
C'est ça.
Et de la même façon, le tir du milieu de terrain.
Le lob du milieu de terrain.
Le tir du milieu de terrain,
elle rentre pas. Et pourtant, tout le monde est épaté par ça.
Mais
ça ne rentre pas. Aujourd'hui, on nous dit, mais si tu rates ou si tu réussis pas, c'est...
Moi qui dis
toujours que le foot, ça n'est pas ça, mais que le foot, c'est l'émotion, l'histoire que tu racontes et les souvenirs qui te restent pour la vie. Eh bien là, Pelé, il reste pour la vie parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais deux de ses gestes les plus fameux, c'était pas des buts, c'est des gestes au final ratés.
Tu sais pourquoi ils sont restés fameux, je pense? On a tous vu cette vidéo Mexico 70. Il y avait une vidéo cassette de notre génération qui est qu'on a, enfin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de plateformes.
Que tu as usé jusqu'à la corde.
Usé jusqu'à la corde. Et à chaque fois que tu regardes cette vidéo,
bien sûr,
t'as envie que le but il rentre. Tu sais qu'il rentre pas, ouais, mais il va la mettre, cette
ton
fois,
père, t'as pas montré les buts de Pelé, t'as montré la fin du siècle ou l'arrêt de Gordon Banks sur c'est... Pelé.
Non, puis Pelé, il fait
moi, j'ai quasiment pas de but en tête de Pelé. Enfin, j'en ai deux ou trois. Mais j'ai
la tête quand même.
Bien sûr.
Tu veux dire que t'as avant le but de la tête en finale, quatrième, tu as celui-là, mais qu'avant, tu as des gestes.
Évidemment.
Je trouve que c'est significatif.
Je suis d'accord avec toi, Daniel, depuis très longtemps.
L'émotion,
c'est pas forcément le résultat, l'efficacité.
Mais c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais, Kevin, sur Christian Gourcuff. Ça a été un choc émotionnel. Mais du beau, le joli, c'est beau. C'est esthétique.
Mais quelque part, c'est pour moi, en plus, le plus beau au Brésil. Et oui, celui de 70, mais pour moi, c'est celui de 82.
82 est plus fort que 86, je suis d'accord.
Et il perd dans la deuxième petite phase de poule contre l'Italie dans un match.
Parce qu'il y a deux super équipes.
Oui, mais parce que le Brésil a des joueurs qui moi m'ont rendu dingue tellement c'était magnifique et pourtant ils vont même pas en demi-finale.
Parce que tu l'as vécu aussi, Daniel.
C'est un ministre.
Mais parce que c'est une équipe fantastique, parce que techniquement ce que font Socrates, Zico, Falcao, c'est fou.
Ouais.
C'est fou, c'est du football comme je veux voir tout le temps, moi.
Ouais.
Alors ils ont pas gagné, ils perdent. Bon, ok. Alors ça reste en plus un autre match du siècle pour les Italiens.
Mais c'est resté, Daniel, 82,
j'en ai d'autres
souvenirs. Même l'équipe de France, c'est resté, hein, c'est ça qui est bien, c'est dans le monde entier.
Mais moi, tous les jours, j'entends que si tu gagnes pas, t'es un tocard. Donc,
c'est bien de gagner aussi parfois.
Oui.
Non,
c'est bien de faire les deux. Quoi, tu vois, d'offrir de l'émotion dans la défaite.
La vraie question.
Et de gagner aussi de temps en temps.
La vraie question, c'est. Est-ce que c'est mieux de gagner en étant moche ou de perdre?
Ouh là là,
mais
ça c'est un débat qu'on a eu mille fois.
Autre débat.
Non, mais le Pérou, que ce soit au pays, que ce soit en général dans le monde entier, ils ont laissé une bonne impression. Ils ont giclé
un sacré buteur en plus.
Oui, Cubillas.
Ah bah oui,
Cubillas. Moi, les gens de ma génération, j'avoue, je le connaissais pas. J'ai vu en regardant les classements des buteurs.
Et il est revenu.
Müller quand même 10 buts. De triplé, je crois.
On va pas avec Gerd Müller. Der Bomber, Der Nation. Dans un
instant. Non, mais là, c'est, on le découvre. Il était un peu connu. Et c'est là qu'on découvre, l'ombre terrifiante. Il porte le numéro 13 parce qu'il a jamais été numéro 9. Hein, c'est toujours le numéro 13. Ça veut dire, je suis là, vous êtes mort. Je vais vous tuer. Dieu pardonne, moi pas. C'est sa formule. Et en effet.
Der Bomber.
La balle, il a le ballon, elle finit au fond.
Le bombardier allemand.
Non, mais c'est surtout que les Allemands, il y avait, qu'on le veuille ou non.
Qu'est-ce que ça joue
bien? Les Allemands faisaient peur, quoi. Mais ils faisaient peur aussi parce que, ils traînaient un peu leur histoire. On est qu'en 70. Mais même en 74, même encore en 82, on parle du passé de l'Allemagne quand ils battent la France. Donc, il y a tout un poids historique.
Oui, le surnom Der Bomber d'un nation peut faire peur.
Excuse-moi, mais dans la fameuse demi-finale.
Ouais.
Quand Beckenbauer revient sur le terrain avec le bras en écharpe, mais d'où il fait ça? Il est mort, ils sont invincibles.
C'est
t'as peur.
Aussi,
tu dis, en fait, c'est un robot. Mais d'où il revient avec le bras comme ça?
Mais Zeller, 33 ans.
Le mec, il vient, il y a le bras qui tient quand même.
Bon, les gars, on va faire un peu d'Allemagne. Il y a beaucoup de choses sur la main à raconter, beaucoup d'histoires de légendes. T'as parlé du bras en écharpe.
Il y a
quelqu'un
Polo soit là pour raconter.
Il y a Zeller, il y a Gerd Müller qui n'était pas encore la star qu'il est devenu ensuite.
Beckenbauer, il y a Overath, il y a les Bouddhas.
Mais oui, mais je dis, le bras en écharpe, il y a tellement d'images en fait. Moi, en lisant ce fou, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quasiment toutes les histoires qu'on m'a racontées quand j'étais gamin. Et elles étaient concentrées, cette Coupe du Monde-là, 70.
Ouais,
c'est assez dingue.
Ouais.
Et on en parle avec toi, chérie, dans un instant. On est ensemble avec Kevin et Daniel jusqu'à minuit pour évoquer l'Allemagne. Et pas mal d'autres anecdotes, notamment sur la finale à l'Azteca devant 107 000 personnes.
Et je conseille à tous les jeunes afteriens la vidéo HS de la
Plus personne n'a un magnétoscope aujourd'hui, Kevin.
Ouais, ils doivent trouver ça sur YouTube.
Ouais, pas simple.
Quand tu tapes sur Google... RFA Italie, le premier truc qui sort, c'est 70.
Et ben voilà.